Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, migrants, suffit-il d'être mineur pour être protégé ? L'État veut accélérer le démantèlement de la jungle de Calais. La préfète du département vient d'annoncer son intention de faire évacuer la partie sud de ce bidonville où vivent 4000 personnes dans des conditions déplorables. Cette évacuation devrait concerner un millier d'entre elles. La préfecture veut les répartir soit dans le centre d'accueil provisoire à proximité de la jungle, soit ailleurs sur le territoire. Alors il n'est pas dit que c'est à ce type de décision que pensait le Conseil d'État en novembre dernier, en demandant aux autorités de mettre en place d'urgence des mesures de protection pour les plus vulnérables parmi les réfugiés présents sur place, à savoir les mineurs, et en particulier ceux qui se retrouvent seuls, c'est-à-dire sans leur famille. Alors, combien sont-ils à Calais et en France ? Difficile à dire avec certitude. Les estimations parlent de 8 000 à 9 000 jeunes, mais une moitié seulement est prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, les autres le sont le plus souvent livrés à eux-mêmes. Selon une estimation d'Europol, l'agence européenne de coordination policière, 10 000 mineurs migrants non accompagnés auraient disparu en Europe au cours des deux dernières années. La Convention internationale des droits de l'enfant impose pourtant que ces derniers bénéficient d'une protection, quelle que soit leur origine. Mais en cette période de forte crispation, leur qualité d'étranger semble primer sur leur statut de mineur. Alors, migrants, suffit-il d'être mineur pour être protégé ? C'est notre sujet du jour. Ouais, c'est une émission qui s'inscrit dans le cadre de notre journée spéciale sur France Culture d'Alep à Calais face à l'urgence. Pour évoquer ces questions, trois invités. Leslie Godlust, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la responsable programme et plaidoyer international pour UNICEF France. UNICEF, je rappelle, une organisation qui travaille pour les droits de l'enfant dans le monde. Pour discuter avec vous, Dominique Versini, bonsoir.
Bonsoir.
Adjointe à la mairie de Paris, vous êtes en charge notamment des questions relatives à la protection de l'enfance. Vous avez été défenseur des enfants de 2006 à 2011. Et puis notre troisième invité, Guillaume Lardanché, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'association Hors la rue, qui est une association de soutien aux mineurs étrangers en difficulté. Vous travaillez essentiellement sur la région parisienne, mais vous avez quand même pour vocation de faire profiter de votre expérience d'autres départements qui sont confrontés également à cette question. Alors ce soir, donc, il s'agit de questionner le sort qui est réservé aux mineurs étrangers qui se trouvent en France, mais aussi sur le sol européen. Personnes, individus particulièrement vulnérables, et parmi eux, peut-être ceux qui sont encore plus vulnérables, ce sont les mineurs, qu'on appelle les mineurs isolés étrangers. Comment est-ce qu'on pourrait les définir? Comment est-ce qu'on les reconnaît? Ce sont avant tout, Leslie Godlust, des enfants qui se retrouvent sans leurs parents, sans leur famille?
Oui, l'appellation internationale me semble plus claire. Ce sont des enfants séparés et non accompagnés. Leur qualificatif d'étranger n'est pas précisé.
C'est une appellation française, mineur isolé étranger?
Complètement. La convention relative aux droits de l'enfant fait référence à des enfants non accompagnés et séparés. Et leur qualité d'étranger ne doit pas entrer en ligne de compte.
Pourquoi est-ce que ça ne doit pas entrer en ligne de compte ?
Parce que des enfants restent des enfants et en l'occurrence, ils doivent bénéficier de la protection en tout lieu et en tout temps.
Le fait de signifier qu'ils sont étrangers, ça peut permettre, Dominique Versini, un traitement différencié selon qu'ils sont justement français ou qu'ils ne le sont pas ?
Non, pas du tout. Ça n'entre absolument pas en ligne de compte. C'est vrai qu'en France, on a pris l'habitude de dire comme ça « mineur isolé étranger ». Et qu'au niveau européen international, on dit plutôt mineur non accompagné. Il s'agit, en tout cas, d'enfants, de jeunes venus d'ailleurs, de pays souvent étrangers, où ils sont venus, de très loin, avec souvent des réseaux de passeurs ou par d'autres voies d'accès. Effectivement, ils sont étrangers, mais ce n'est pas le souci, puisque de toute façon, c'est le fait qu'ils soient mineurs qui amène le juge à les confier à l'aide sociale à l'enfance. Par contre, la qualité d'étranger va poser un problème lorsqu'ils deviendront majeurs et qu'ensuite, à la sortie de ce temps de protection à l'aide sociale à l'enfance à 18 ans ou s'ils ont un contrat jeune majeur à 20 ans ou autre, à ce moment-là, ils deviendront des adultes en situation irrégulière. C'est pourquoi il faut commencer la régularisation de leur situation dès l'âge de leurs 17 ans. Et il y a une circulaire gouvernementale en ce sens.
Ce n'est qu'au moment où ils deviennent majeurs, Guillaume Lardanché, que se pose la question et la problématique du fait qu'ils soient étrangers.
Exactement, puisque comme l'a dit Leslie Godlust, et je vais le répéter, donc les mineurs ce sont avant tout des enfants, donc des personnes âgées de moins de 18 ans, c'est peut-être nécessaire de le répéter, et en France, et comme dans les autres pays signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant, tous les enfants ont les mêmes droits et quand ils sont en danger, ils ont droit à la même protection. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut remettre, cette notion de danger. L'isolement ou le fait d'être non accompagné, tel qu'il s'est défini dans la loi en France, à savoir l'isolement, je crois que c'est une privation temporaire ou définitive de l'autorité parentale. L'isolement est un des critères de danger, mais ce n'est pas le seul. On voit à Paris et dans d'autres territoires des enfants qui sont en danger, mais pas nécessairement parce qu'ils sont isolés, et des enfants étrangers qui sont en danger, mais sans être nécessairement isolés. Au sens juridique du terme.
Mais il ne suffit pas de dire qu'ils ont les mêmes droits, encore faut-il qu'ils soient appliqués de la même manière à ces différentes catégories d'enfants. Est-ce que c'est aujourd'hui le cas systématiquement, Guillaume Lardanché?
Non, clairement non. Il y a des discriminations dans l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance pour plein de raisons. Une des raisons, c'est que la protection de l'enfance en danger, c'est un engagement international de la France au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais elle est la prérogative exclusive des départements. Donc il y a un engagement international, protéger tous les enfants, mais aussi sans politique de protection de l'enfance en France. Donc ce qui peut être vu dans un département n'est pas forcément le cas dans d'autres départements. Et c'est par cet un peu morcellement de ces approches qu'on voit parfois des pratiques différenciées selon les territoires.
Partagez le constat, Dominique Versini, de ce morcellement justement et de cette peut-être appréciation différente selon les départements.
C'est exact. Il y a des départements qui ne veulent pas accueillir de mineurs isolés étrangers.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Ils disent effectivement qu'ils n'ont pas les moyens, que ça fait beaucoup d'argent, puisque c'est une compétence du département. Il y a des départements comme Paris, où nous accueillons 1500 mineurs isolés étrangers. Nous avons environ 4800 enfants qui nous sont confiés au titre de la protection de l'enfance par la justice. Parmi eux, 30% sont des mineurs isolés étrangers, dont un bon nombre sont encore chez nous lorsqu'ils sont jeunes majeurs. Mais effectivement, il y a eu une circulaire Taubira qui a fait l'objet d'une annulation partielle par le Conseil d'État et qui va normalement retomber sur ses pieds une fois que la loi de la protection de l'enfance à laquelle vous avez fait allusion sera publiée et qui prévoit une répartition nationale. Parce que Paris ne peut pas accueillir l'ensemble des enfants. 1500, c'est 30% des enfants. Nous le faisons volontiers, c'est pas un problème. Mais lorsque la cellule nationale du ministère de la Justice propose à certains départements d'accueillir des enfants pour qu'ils soient accueillis dans les différents départements de France, beaucoup refusent. Et c'est pour ça qu'il y a des recours contre ce fait. Oui.
Donc Leslie et Godlust, si on peut dire que les droits des enfants étrangers ne sont peut-être pas toujours respecté comme il devrait l'être, c'est avant tout à cause de certains départements qui se feraient un petit peu prier, ou bien est-ce qu'il y a aussi peut-être un problème de politique plus générale? Il y a l'UNICEF qui a publié un communiqué il y a quelques semaines ou quelques mois de cela, qui disait notamment, force est de constater qu'une véritable politique publique de l'enfance, et de l'adolescence n'existe toujours pas en France.
En effet, nous appelons à la mise en place de cette politique publique de l'enfance en France. Pour en revenir aux inégalités territoriales, oui, dans une certaine mesure, les départements doivent prendre leurs responsabilités, et en particulier dans le nord de la France, où ils sont confrontés à un afflux d'enfants non accompagnés et séparés, qui sont en danger, pour le coup, et par le système de la circulaire Taubira, aussi doivent accueillir des enfants d'autres départements. Donc ils sont engorgés. Il y a déjà un problème d'engorgement pour les départements qui veulent bien accueillir ces mineurs. Et puis, il y a un autre, je dirais l'envers de la médaille, qui est le financement. Puisque la politique de la protection de l'enfance est dévolue au département, mais les financements n'ont pas forcément suivi. Donc, il y a ça d'une part.
Compétence département. Nous devons payer. Oui.
Mais les financements doivent suivre. Vous êtes d'accord? Donc, certains départements arguent du fait qu'ils n'ont pas ces financements. Et d'autre part, l'identification, le recensement de ces mineurs isolés étrangers et le fait des pouvoirs publics de l'État. Et dans le cadre de Calais notamment, ce n'est pas le cas, il n'est pas en place. Donc alors, il y a une responsabilité de l'État.
Alors la question de l'identification, c'est une question qui est importante. Guillaume Lardanchet, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui quand on est confronté à ces mineurs étrangers? Déjà justement pour avoir, disons, la preuve, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder, qu'ils sont mineurs?
Alors il y a différentes situations. Il y a la question des, appelons-les comme ça, des mineurs migrants non accompagnés, donc des enfants qui arrivent sur le territoire, souvent après de longs parcours migratoires, de plus en plus longs, surtout depuis les révolutions arabes, où, qui ont nettement compliqué les routes en Afrique. Des jeunes qui arrivent dans un département, à Paris, je peux parler de l'exemple parisien, c'est une évaluation qui doit être faite par le conseil général, qui doit revoir, évaluer la situation du jeune au regard de son isolement et au regard de sa minorité. Pourquoi au regard de sa minorité? Puisqu'il y a parfois des enfants qui arrivent sur le territoire sans passeport biométrique. Évidemment, s'ils avaient un passeport biométrique, la vie serait plus belle, mais tous les pays ne délivrent pas des passeports biométriques. Donc il faut pouvoir, on conditionne l'entrée dans la protection de l'enfance par la reconnaissance de minorité et la reconnaissance de l'isolement qui est un des critères de danger.
Mais ça se passe comment? Alors, il y a des entretiens, c'est du déclaratif, hein, c'est quelqu'un qui
alors, je pense que Madame Versini pourrait en parler, mais moi ce que je peux parler, bien sûr c'est des entretiens, c'est normalement la loi, enfin on peut se référer au cadre de la loi est assez claire là-dessus. La première chose c'est l'examen des documents d'état civil en possession des personnes.
Bon, il n'y en a pas. Disons que s'il n'y en a pas.
Il peut y en avoir. Il y a généralement un extrait d'acte de naissance. Le problème, c'est que l'acte de naissance est parfois jugé comme non recevable parce qu'il n'y a pas de photos sur les extraits d'acte de naissance qui sont produits par ces jeunes. Donc, on ne peut pas relier le document d'état civil à la personne qui le présente. Donc, après, c'est la base d'un...
Dominique, merci. Je peux vous l'expliquer parce que allez-y. Je suis responsable de ça à Paris. D'abord, pour vous dire qu'à Paris, on assume, puisque c'est un budget de 80 millions d'euros par an, sur le budget de 360 millions de l'aide sociale à l'enfance. Donc vraiment, Paris a toujours assuré. Et ce n'est pas un problème pour nous d'assurer nos responsabilités.
Bon, mais vous n'êtes pas là non plus pour vendre la politique parisienne par rapport aux autres. Bah, expliquez-nous justement comment...
Je suis là pour dire que c'est quand même un choix politique de le faire et c'est notre choix politique.
Alors comment vous faites? Alors comment vous faites en tout cas pour l'identification?
Lorsqu'un jeune se présente et qu'il dit qu'il est mineur, il est orienté vers une permanence qui est actuellement gérée par la Croix-Rouge dans le 11e arrondissement. Et là, il est immédiatement mis à l'abri. Sa situation est évaluée par une équipe pluridisciplinaire qui examine à la fois les documents qu'il présente, son récit, et qui évalue donc un certain nombre d'indices qui permettent de conclure au fait qu'il soit mineur ou majeur. Il faut savoir que la majorité des jeunes qui arrivent ont plutôt autour de 17 ans. Ce ne sont pas des jeunes enfants. Lorsqu'ils ont 13-14 ans, l'évaluation se fait en deux minutes. Voilà, donc ils sont mis à l'abri. Et ensuite, lorsque...
C'est quand il y a un doute, en fait, sur le fait qu'il soit mineur ou majeur, que cette évaluation est un petit peu plus poussée, c'est ça ?
Est un peu plus sensible. Il peut y avoir une deuxième évaluation, si nécessaire. Et en fonction de l'évaluation, donc, le département conclut à la potentielle minorité ou majorité. Si le département conclut au fait que le jeune est mineur, le dossier est transmis à la justice pour que le juge tranche quant à savoir s'il confirme la minorité ou pas. Et le juge peut à ce moment-là demander une expertise d'âge osseux. Donc c'est les juges qui la demandent.
Voilà, donc ce sont des tests osseux qui permettent de déterminer effectivement si la personne est, l'âge en tout cas de la personne, même si ce sont des tests qui sont, je crois, Leslie Goldlust, extrêmement critiqués, y compris par l'Académie de médecine, mais y compris par les instances onusiennes.
Oui, dans le cadre des recommandations du comité de Nations Unies pour les droits de l'enfant, les tests osseux sont dénoncés. Hein, on demande clairement à la France de ne pas les mettre en œuvre. La position de l'UNICEF suit complètement cette position.
Est-ce que c'est uniquement parce qu'ils ne sont pas suffisamment fiables ou est-ce que c'est presque, on va dire, d'un point de vue éthique, disons, qu'ils sont dénoncés?
Je dirais que c'est les deux déjà. Ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant, la parole de l'enfant. Et on peut estimer qu'il peut y avoir un caractère humiliant dans ces tests, notamment dans les tests dits physiologiques. Ensuite, la marge d'erreur de ces tests fait que leur probité scientifique est remise en question, comme vous le disiez, par des magistrats, par des médecins, par des scientifiques. Et il existe d'autres techniques qui sont valorisées et qui sont appliquées par un certain nombre de départements en France d'ailleurs.
Sauf que manifestement, la France ne se dirige pas vers une interdiction de ces tests osseux, puisqu'il y a une proposition de loi, donc vous évoquiez Dominique Versini, relative à la protection de l'enfant, qui est en discussion au Parlement. Alors ça fait de longs mois, d'ailleurs, qu'elle est en discussion. J'ai regardé cet après-midi la dernière version du texte, qui est actuellement au Sénat, qui va être discutée dans quelques jours. Il y a l'article 21 ter qui évoque justement ces examens radiologiques osseux. Et ce que dit le texte, c'est qu'ils ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé, et que les conclusions de ces examens ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Est-ce que pour vous, par exemple, Guillaume Lardanchet, c'est une formulation qui est rassurante, en disant c'est suffisamment cadré pour pas qu'il y ait pas de dérive, ou est-ce que au contraire c'est inquiétant parce qu'on met les tests osseux dans la loi ?
Nous, on a toujours été une position assez claire là-dessus. On a toujours contesté l'utilisation des tests osseux, notamment pour leur manque de fiabilité. Et on nous répond souvent, mais que faire ? Et notamment sur l'examen des papiers. C'est vrai qu'on a cet article 47 du Code civil qui doit normalement primer l'examen des documents d'état civil dont je parlais tout à l'heure. Et on peut aussi se demander, et moi je regrette que dans cette loi, il n'y ait pas eu des moyens alloués pour améliorer les authentifications de documents. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la manière dont sont authentifiés les documents administratifs et la fiabilité de ces authentifications. Et il peut y avoir des documents retoqués alors qu'ils sont valables, et on bascule là sur le test osseux et sur un dispositif qui est moins fiable.
Est-ce que ça peut être une forme de solution de facilité, c'est-à-dire finalement alors les tests osseux, ça permet d'aller un peu plus vite, il n'y a pas besoin de prendre autant de temps de discuter avec un adolescent, parce que j'imagine qu'un adolescent par exemple qui arrive en France, qui est mineur, qui n'est pas accompagné, c'est pas en une journée qu'on arrive à savoir si les mineurs ou pas.
Vous touchez un point assez fondamental. C'est difficile en si peu de temps de rentrer dans la technique, mais c'est vrai qu'il y a il y a une durée pour l'évaluation qui était évoquée tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on remarque, c'est que cette durée, elle est extrêmement courte. Comme je vous disais, il y a des jeunes qui ont des parcours migratoires extrêmement complexes, extrêmement douloureux et extrêmement traumatisants pour beaucoup de raisons. Les passages des frontières en Afrique sont parfois compliqué. Il y a des zones de libre circulation en Afrique où c'est facile, mais passer la frontière entre la Mauritanie et l'Algérie, ça peut être assez compliqué. Passer d'autres frontières peut être extrêmement compliqué. C'est là où les enfants peuvent être mis en relation avec des réseaux de passeurs. Et c'est à partir du moment où ils sont dans ces réseaux-là que ça influe sur le reste de leur parcours migratoire. Et on le voit, une fois qu'ils sont arrivés en France ou en Europe, qui est quand même un objectif est considéré comme quelque chose de une terre d'accueil malgré tout, et un objectif pour ces jeunes, ils sont pas toujours en mesure de délivrer tout de suite la réalité de leur parcours, ce qu'ils ont pu vivre, de démêler aussi, de comprendre, de savoir à qui faire confiance, parce que faut bien savoir que pour passer une frontière, des fois on vous dit ah bah vaut mieux que tu dises que t'es 19 ans, 20 ans, 21 ans, là on vaut mieux que tu dises que t'es moins de 15 ans. Donc c'est des jeunes à qui sont trimballés aussi par des passeurs qui peuvent leur demander de tenir des discours qui sont contradictoires. Donc, il y a besoin de temps pour faire une évaluation sociale, qui soit de qualité. Le test osseux, on l'a dit, c'est quelque chose qui peut être violent. Mais je voulais juste aussi dire qu'il peut y avoir des refus d'entrer dans le dispositif de protection de l'enfance suite à une évaluation sociale sans nécessairement qu'il y ait un recours au test osseux. Et c'est peut-être un élément important, parce que c'est là où des jeunes migrants se retrouvent en situation de difficulté, et c'est là où on voit le frottement entre le dispositif de protection de l'enfance et le dispositif majeur. C'est que ces jeunes qui n'ont pas accès à la protection de l'enfance, ils n'ont pas, c'est sur une décision administrative, ils n'ont pas la possibilité de contester devant le tribunal administratif cette décision. Donc ils sont majeurs pour la protection de l'enfance, mais ils n'ont pas non plus accès à l'hébergement d'urgence, ils sont mineurs pour la protection des majeurs.
Alors, et là, c'est un problème. À quel point c'est complexe. Sur la question peut-être des tests osseux, Dominique Versini, vous, quelle est votre position par rapport à ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un outil en dernier recours quand on a épuisé tous les autres ?
C'est un recours d'abord qui est décidé par le juge, donc parce qu'il est autorisé par la loi, mais on voit que c'est un recours qui se réduit considérablement. Il faut savoir quand même qu'il y a une marge d'erreur de 18 mois, pardon. Donc par exemple, les examens sont faits, et c'est pas uniquement un test d'âge osseux, c'est un examen clinique, c'est bien plus compliqué, qui est fait à l'Hôtel Dieu avec des médecins extrêmement spécialisés.
À Paris,
Moi, je sais parler que de Paris, excusez-moi. Oui, à Paris, pardon. Effectivement, mais il y en a 1500, donc c'est beaucoup. Et qui est fait de façon extrêmement sérieuse et bien au-delà de cela. Et donc, on va dire, par exemple, le médecin va dire le jeune a entre 17 ans et 18 ans et demi. Et donc, à Paris, le parquet mineur a une jurisprudence, parce que c'est eux qui décident, c'est toujours la fourchette la plus basse en faveur du mineur. Ça, c'est une chose. Et on s'aperçoit que les expertises osseuses ont beaucoup diminué par la justice, puisqu'en 2014, il y en avait 280 demandées et 60 en 2015. Donc, on voit aussi que les juges rentrent plus dans la prise en compte, à Paris, de l'évaluation sociale qui est faite. Donc, ça me paraît important. Après, ce qu'apporte la loi, c'est un, il faut l'accord du jeune, et puis deux, il ne faut pas se limiter qu'à ça. C'est vrai. Sur les documents, effectivement, il y a autre chose qui nous échappe. Il y a un service spécialisé à la préfecture de police de la fraude documentaire. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de documents d'identité qui sont pas exacts, enfin, qui peuvent avoir été faits dans des conditions plus ou moins douteuses. On n'est pas non plus au paradis. Il faut quand même avoir une certaine forme d'objectivité. Mais je pense que tout est fait pour aller... De ce que je constate, enfin, en tout cas, les expertises d'âge osseux à Paris, ça a diminué de 30%, donc c'est important.
Alors, j'évoquais au tout début de l'émission cette annonce qui a été faite par Europol, donc qui est l'agence de coordination policière européenne. C'était il y a quelques jours, et avec cette estimation assez incroyable, 10 000 mineurs qui auraient disparu de la circulation sur les deux dernières années, enfin 18 mois, 24 derniers mois. Leslie Godlust. Comment est-ce qu'on peut... Alors, je ne sais pas d'abord si cette estimation, elle vous paraît crédible. Enfin bon, même si c'est peut-être un petit peu moins, c'est de toute manière, j'imagine, des chiffres assez importants. Où est-ce qu'ils sont passés, ces enfants? Est-ce que c'est forcément des enfants qui ont, par exemple, été récupérés par des filières criminelles, que ce soit des filières de prostitution ou de mendicité forcée? Comment se fait-il, en fait, que ces enfants-là ne soient pas répertoriés, disons, quand ils entrent sur le sol européen et qu'on ne puisse pas suivre davantage leurs traces?
C'est une bonne question. Sur ce chiffre des 10 000, évidemment, c'est à prendre avec précaution. Ce dont on est certain, c'est que l'identification des enfants non accompagnés et séparés dans la migration est pour le moins déficiente, défaillante. On demande un plan d'urgence pour la protection de l'ensemble des enfants dans la migration, mais plus particulièrement des enfants non accompagnés. Concrètement, les enfants ne sont pas systématiquement identifiés lorsqu'ils arrivent en Europe, donc ils ne sont pas suivis. Et d'où leur disparition. La majorité des enfants non accompagnés actuellement, sur 2015, on a les chiffres, on sait qu'ils seraient à peu près 90 000, une soixantaine de milliers en Allemagne, 35 000 en Suède, où là... dans les pays d'accueil même, certains auraient disparu.
Mais alors, est-ce que c'est parce que certains, par exemple, se cachent parce qu'ils ont peut-être peur que si on les, si on les isole pour les protéger, eux pensent peut-être que c'est justement pour les emprisonner et puis peut-être les renvoyer chez eux. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui expliquent qu'ils soient aussi nombreux?
Alors, il y a plusieurs phénomènes, en effet. Là, on a parlé jusqu'à présent des enfants qui demandent la protection, mais il y a un certain nombre d'enfants, et notamment actuellement dans le nord de la France, qui ne demandent pas la protection, qui sont donc laissés complètement dehors du système, on va dire, ordinaire. Donc, nous réclamons un système extraordinaire pour les aider. Il y a un problème d'information de ces enfants sur leur droit à la réunification familiale, puisqu'un certain nombre ont de la famille dans leur pays de destination. Ils ne souhaitent pas être stoppés sur leur chemin. Et de ce point de vue-là, on constate des défaillances, notamment du système administratif français pour les enregistrements, notamment pour les amener à la réunification familiale. Donc, comme ils n'ont pas ces informations, qu'ils constatent des délais, qu'ils ont peur d'être arrêtés dans leur but ultime qui est d'atteindre leur pays de destination, ils passent entre les mailles du filet. D'autres, évidemment, sont évidemment... peuvent entrer dans des réseaux. Actuellement, nous n'avons pas d'informations ni de chiffres sur ce problème de traite. On demande d'ailleurs à ce que les États membres de l'Union européenne prennent leurs responsabilités et investiguent de manière proactive ce sujet.
Est-ce que dans le cadre de l'association que vous dirigez, Guillaume Lardancher, vous êtes confronté à ce type de mineurs ? Donc je rappelle le nom de l'association, c'est Hors la rue, c'est-à-dire des mineurs qui refusent, parce qu'ils connaissent mal les dispositifs, d'entrer dans le cadre de la protection de l'enfance.
C'est même notre public cible principal. On essaie de s'adresser à ceux qui échappent au système de protection de l'enfance, soit parce qu'ils refusent, soit parce qu'ils sont dans des systèmes de contraintes qui peuvent s'apparenter à de la traite des êtres humains, véritablement. Donc vous avez évoqué les réseaux de prostitution, les réseaux de mendicité, c'est un petit peu plus complexe parce que ça évoque beaucoup de choses. La mendicité peut être organisée, mais elle peut être aussi, c'est aussi une stratégie de survie économique qui implique aussi des enfants en famille, et aussi les réseaux qui contraignent des enfants à commettre des délits, qui est une vraie problématique en France, une vraie problématique parisienne. Et oui, ça existe. C'est des situations qui échappent à la protection de l'enfance parce que là encore, si on prend les mineurs contraints à commettre des délits, on a une approche répressive sur ces questions-là. Vous évoquiez, j'ai l'impression que c'est le sujet de l'émission. Est-ce qu'être étranger est un frein à l'application du droit commun de la protection de l'enfance? Ça peut l'être dans certains cas. Je rajouterais, est-ce que être victime de traite quand on est enfant et notamment contraint à commettre des délits, est-ce que c'est un frein à l'entrée de la protection de l'enfance? Oui, parce qu'on voit des gamins aujourd'hui. Des jeunes gamins qui sont envoyés en prison parce qu'ils sont forcés à commettre des délits.
C'est-à-dire qu'en gros, on voit soit d'abord des étrangers ou soit d'abord des délinquants avant de voir des mineurs.
Tout à fait. Ou alors, on peut aussi en parler rapidement. Des fois, on voit des Roms, et je mets un guillemet, ça se voit pas à la radio, les guillemets, mais voilà, d'enfants qui vivent dans les bidonvilles. Vous avez voté le bidonville de Calais. Il y a plus de 20 000 personnes en France qui vivent aujourd'hui dans les bidonvilles avec une politique publique qui est principalement et quasi exclusivement fondée sur des expulsions systématiques, des expulsions qui mettent en danger véritablement des enfants. Et ça, c'est une politique délibérée de destruction des liens que voudraient construire certaines familles, une impossibilité d'accès à la scolarisation, d'accès aux soins pour les enfants et parfois de véritables mises en danger, comme ça se passe aujourd'hui, en ce moment même, à Champs-sur-Marne, à côté de Paris. Et je tenais à le dire parce que c'est des situations un peu dramatiques.
Dominique Versini.
Alors évidemment, les choses sont différentes suivant les territoires. À Paris, mais chacun peut le constater, il y a beaucoup de familles qui sont dans la rue avec de jeunes enfants en situation de mendicité. Tous les enfants ne sont pas exploités pour autant, hein. Il y a des situations de grande détresse. C'est souvent les plus pauvres d'entre les plus pauvres qui n'ont même pas de quoi payer la dîme qu'il faut payer pour aller dans les campements de la périphérie, hein. Donc nous avons une stratégie de travailler avec eux et des associations partenaires pour les accompagner vers un projet d'insertion. Donc nous avons une équipe mobile qui tourne toute la nuit et nous avons, avec les familles avec qui l'accroche se fait, mais ça peut être long, nous avons donc une stratégie qui vise à leur permettre d'accéder à de l'hébergement, à de l'hôtel ou à de l'hébergement ou à quelques appartements.
Donc c'est sur le principe des maraudes, comme peuvent l'être celles, oui, par exemple du SAMU social,
oui,
c'est ça ?
Oui, nous avons une maraude spécifique, unité d'aide aux sans-abri, avec des interprètes roumanophones et bulgarophones, dont un jeune homme d'ailleurs issu d'un campement qui est devenu maintenant, qui a été embauché et qui fait partie de l'équipe. Et nous les orientons vers des hébergements et nous les en orientons quelques-uns. Alors attention, hein, c'est un travail vraiment, c'est de la broderie anglaise, c'est à l'unité, hein, vers des chantiers d'insertion via une association, Emmaüs Coup de Main, qui travaille avec nous. Et nous les amenons en fait à comprendre que c'est mieux d'être inséré, d'être dans un chantier d'insertion, d'avoir un chez-soi, plutôt que d'être dans la rue en train de faire la manche. C'est très long. Il y avait une quarantaine, une soixantaine de familles. Là, il y a 7-8 familles qui dorment toute la nuit à la rue. Il n'empêche qu'il y a des familles qui restent jusqu'à 8h, enfin jusqu'à 10h, 11h du soir, et qui ensuite rejoignent un hôtel ou un centre d'hébergement. C'est très complexe en fait.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même, par rapport à ces populations, donc les Roms, hein, et je mets les mêmes guillemets que Guillaume Lardancher, une forme de tolérance, alors je ne parle pas des services de la mairie de Paris, mais une forme de tolérance collective qui fait que quand on voit ces familles-là, alors moi je me souviens par exemple, il me semble que c'était l'été dernier ou il y a un an et demi, je ne suis pas sûr, mais du côté de la place de la Bastille, hein, qui, oui, est... Voilà, des endroits très vivants, on va dire, avec énormément de bars et de restaurants dans Paris. On voyait énormément de familles qui dormaient de familles roms, donc qui dormaient avec leurs enfants. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de tolérance un peu collective, Guillaume Lardancher, à se dire, ouais, c'est peut-être moins grave parce que c'est des Roms et donc on s'en préoccupe moins.
Non mais je vais être provocateur. Comment vous savez qu'elles sont roms? En fait, il y a ça aussi, c'est que cette utilisation du mot, je ne conteste absolument pas le.
C'est bien pour ça que je mets les mêmes termes que vous. Hein.
L'existence de la cette culture, de ce peuple et de cette minorité, mais aujourd'hui, dans les médias, dans la politique, parfois même dans le secteur associatif, on accole le mot rom et on contribue à véhiculer des préjugés qui accolés à cette communauté. Nomadisme, non. Ce n'est pas des populations nomades, ce sont des populations sédentaires. Exploitation des enfants, non. Les familles qui peuvent exploiter leurs enfants, ce sont une minorité parmi ces familles.
Alors je vais vous reposer la question différemment, Guillaume Lardancher. Je suis d'accord avec vous, avec ce que vous dites, mais est-ce que justement ce ne sont pas ces préjugés qui font que quand on passe devant ces gens qui dorment dehors avec des enfants, il n'y a peut-être pas la même réaction collective qu'il y aurait si on se disait, tiens voilà, ça pourrait être nos enfants à nous.
Bien sûr, mais faut bien avoir à l'esprit que ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui a décrit Dominique Versini dans les rues de Paris, est une conséquence immédiate de ce que je décrivais, à savoir une politique fondée sur les expulsions, où les familles les plus vulnérables se retrouvent sur les trottoirs de Paris parce qu'elles n'ont pas accès aux campements dans lesquels il faut parfois payer effectivement un droit d'entrée, un droit de redevance, et quand on peut pas le payer, on rentre en dette avec d'autres personnes, et c'est parce qu'on est en dette avec d'autres personnes qu'on est obligé de demander avec ses enfants et de faire travailler ses enfants. Donc il y a tous ces phénomènes-là. Faut bien comprendre que le traitement réservé aux Roms en France contribue à créer des phénomènes qu'on prétend pourtant combattre. Accroissement de la misère, accroissement du danger dans lequel se trouvent les enfants, accroissement aussi d'une certaine forme d'organisation et de trafic, parfois de la criminalité, facilite les activités de la criminalité organisée, et finalement vient valider ces préjugés qui sont des préjugés totalement construits.
Alors on a
je rappelle, ces 20 000 personnes, c'est pas énorme qui vivent dans les bidonvilles en France.
Dominique Versini.
Voilà, je dirais que c'est un problème très complexe et on a tout envisagé. C'est vrai que si c'était une famille ordinaire, je dirais, qui serait à la rue avec un enfant, le juge ferait une ordonnance de placement.
Ah bah donc vous êtes d'accord quand même que voilà.
Et les enfants seraient placés parce que on considérait que c'est une maltraitance. Or là, quand on voit les familles installées, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui oblige à rechercher s'il y a maltraitance ou pas de l'enfant ou exploitation. Or, comme l'a dit Guillaume Lardancher...
Dormir à la rue, c'est une maltraitance.
D'un certain point de vue, oui. Enfin, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour un enfant, c'est clair. Mais nous sommes dans une démarche où nous proposons une mise à l'abri qui n'est pas totalement adaptée à ces familles. C'est pour ça que nous nous orientons vers un lieu d'accueil de jour qui va bientôt voir le jour, qui permettra petit à petit de les aider à s'apprivoiser, d'élaborer des projets et peut-être d'accepter plus facilement ce que nous proposons comme solution. Mais effectivement, il y a eu des juges qui ont fait des ordonnances de placement. Ça a été terrible, très mal vécu, et par les enfants, et par les familles, et par nos services.
Guillaume Lardancher.
Et voilà, quand bien sûr que c'est choquant de voir des enfants qui dorment à la rue avec leurs parents, et que parfois on a envie de réagir et qu'on se dit ces enfants seraient mieux dans un foyer de protection de l'enfance. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que des fois la séparation des parents et des enfants avait notamment des conséquences sur la santé même des enfants dans ces foyers, et avait d'autres conséquences, c'est que les familles craignaient l'intervention sociale et refusaient l'intervention sociale de crainte qu'ils identifient l'intervention sociale et l'aide qu'ils peuvent leur être apportée. Parce qu'ils vont penser que la conséquence, ça va être le placement des enfants.
D'où l'importance du travail de pédagogie et de dialogue avec ces personnes. On est presque au terme de la discussion, les Ségoldus. Alors, on a parlé avec vous trois de l'échelon départemental comme mode d'intervention, de l'échelon national. À l'échelle européenne, j'ai vu que l'UNICEF lançait donc un appel pour un plan d'urgence pour la protection des enfants non accompagnés. C'est-à-dire, de toute manière, là aussi, ça ne peut pas s'envisager autrement qu'à travers l'échelle européenne, même si on voit bien qu'aujourd'hui c'est un petit peu le règne du chacun pour soi entre les différents États membres de l'Union européenne.
Oui, la solution est dans l'Union et la solution est à Bruxelles, avec la bonne volonté de l'ensemble des États membres. Les systèmes existent, hein, ils ne sont juste pas appliqués, notamment le régime de Dublin III, hein, qui va être négocié au mois de mars.
Voilà, c'est un régime qui organise, on va dire, la répartition des réfugiés qui arrivent sur le sol européen.
Et surtout qui permet la réunification familiale. On parlait de déplacement d'enfants. L'idée, c'est vraiment de maintenir au plus possible la cellule familiale, hein, que l'enfant soit à la rue ou qu'il soit en chemin. L'idée, c'est de réunir les familles.
Et alors ça, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des perspectives peut-être justement d'évolution? Il y a des conseils européens là qui arrivent et qui vont prendre à bras-le-corps ces questions?
Alors, au mois de, il y a eu un chemin qui a été parcouru. Hein, le premier agenda sur la migration qui a été fait au mois d'octobre... ne faisait pas mention des enfants, enfin si, dans une note de bas de page. Actuellement, il y a un plan pour la protection des enfants qui est en cours, enfin un plan d'action. Il y a 200 millions d'euros qui viennent d'être dégagés pour protéger les enfants, mais aussi, il faut mettre en place des normes. Il faut que les pays veulent identifier ces enfants non accompagnés, veulent bien les suivre et veulent bien aussi les écouter, puisqu'ils ont une demande, ces enfants, ils ont une destination finale et le meilleur intérêt de l'enfant doit être pris en compte.
À 18h56 sur France Culture, comme chaque vendredi, nous retrouvons nos camarades de l'Obs. Et notre camarade de ce vendredi, c'est François Armanet, le responsable des pages débat de l'Obs. Bonsoir François.
Oui, bonsoir.
Vous ne me contredirez pas si je vous dis que vous allez radicalement changer de sujet pour nous parler sexe en Amérique.
C'est clair, absolument. Là, c'est en liaison avec les élections américaines. Ça résonne avec Hillary Clinton, parce que ça lui rappelle en tout cas de fâcheux souvenirs. Et on a voulu voir avec l'historienne Nicole Bacharan, en tout cas l'envers du puritanisme. Et effectivement, quand elle étudie dans son livre qui s'appelle « Du sexe en Amérique », les rapports de la politique et des mœurs, on voit que les mœurs ont parfois même eu ont forgé peut-être davantage d'identité américaine que la politique strictement dit. Ça démarre avec un mensonge fondateur sur le puritanisme, parce que on a toujours l'impression que les États-Unis sont d'abord puritains. La nation, elle s'est fondée sur la liberté, mais elle s'est aussi fondée sur l'esclavage. Et l'esclavage, c'était aussi une exploitation sexuelle immédiate des Blancs sur les Noirs. Donc il y a ce mensonge fondateur, il y a l'emprise de la religion qui existe, et ça, c'est ce qui explique... l'affaire Clinton, les whisky qu'il y a eu, ou les confessions du golfeur Tiger Woods, c'est-à-dire que ça explique de la repentance, de l'autoflagellation, de l'hypocrisie. Donc en tout cas, c'est ça qu'elle nous raconte de manière très, très intéressante et avec des exemples qui vous parleront. Les blockbusters américains, ces grands films américains, il peut y avoir des kilos et des kilos d'hémoglobine, mais pas de seins nus. Donc on est toujours sur ce double discours du côté des États-Unis. Voilà, en tout cas, donc on a consacré nos pages débat à cet entretien avec Nicole Bacharan.
Je me souviens même d'un exemple lors de la finale du Super Bowl où je crois que c'était Janet Jackson qui avait montré un bout de sein et ça avait fait un scandale national, alors qu'elle chantait pour...
Par rapport à la nudité, ils sont comme en même temps comme des grands enfants pris en faute. Et là, en plus, il y a le show business et l'entertainment. C'est-à-dire que là, à propos de Janet Jackson, c'était effectivement une mise en scène, mais une mise en scène scandaleuse. Par ailleurs, du côté des mœurs, ça a relativement avancé avec Obama, avec le mariage gay qui commence à s'installer. Mais bon, Obama est aussi un véritable Américain, conservateur, avec une famille très conservatrice finalement dans les mœurs.
Et on voit bien que pour les candidats d'ailleurs aujourd'hui à la présidentielle américaine, il y a obligation de se montrer à chaque fois avec son épouse, ses enfants, et de montrer qu'on est une famille extrêmement unie, extrêmement modèle.
Oui, alors que le nombre d'ultra-conservateurs qui ont été pris la main dans le sac, c'est aussi ce que raconte Nicole Bacharan, en matière d'adultère, de prostitution, etc., et j'en passe, il y a eu aussi un paquet d'exemples. En tout cas, c'est cet États-Unis avec un envers du puritanisme entre... hypocrisie et liberté absolument radicale des mœurs.
L'envers du puritanisme, c'est justement le titre de cet article, de cet entretien avec Nicole Bacharan, donc on peut retrouver dans le dernier numéro de l'Obs, François Armanet, avec en une les intellos et l'argent. J'y reconnais Thomas Piketty, Luc Ferry, Alain Finkielkraut, et puis les deux autres m'échappent, Michel Onfray évidemment.
Eric Orsena.
Eric Orsena, voilà, bien sûr. Ben, c'est son, ben, comme sur des dessins, j'ai eu un petit trou là.
Non, non, mais c'est une vaste enquête sur les rapports, en tout cas, de nos intellectuels et de l'argent. Et en tout cas, il y a quelques révélations assez inédites.
Merci beaucoup, François Armanet.
C'est moi, merci.
Merci, Guillaume Lardanchet. Merci, Guillaume, Dominique Versini et Leslie Goldes. Oh là là, il est temps que la semaine s'achève pour moi. Et merci en tout cas d'avoir participer à cette émission. Rassurez-vous, lundi, je ne serai pas là. Je vais prendre un petit peu de congé. C'est Mélanie Chalandon qui présentera l'émission. Ça me permettra de me reposer un petit peu. Faut-il à nouveau intervenir en Libye? Ce sera la question qu'elle posera à partir de 18h20. Tout de suite, c'est Ping Pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Tous les deux sont en pleine forme, je crois.